Mon Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Voici le nom qu'on exposait de début de carême, qui est assez austère, j'espère qu'il ne sera pas trop ennuyeux. Je parlerai de Grégoire VII et du haut Moyen-Âge, disons les 9e et 10e siècles, période en général peu connue. Dans les manuels classiques, on ne citait guère que Charlemagne, Dagobert et Hugues Capet, ce qui est bien peu pour deux siècles. L'histoire de l'Église se résume aux luttes entre Rome et Byzance, avec comme figure illustre Grégoire Ier, 590-604, qui fut, comme on le dit, le dernier pape de l'Antiquité et le premier pape du Moyen-Âge, et Saint Léon, 847-855, qui organisa la résistance contre les Arabes, qui commençaient à envahir l'Italie. De 850 à 1050, il y eut 43 papes, dont 5 seulement ont régné plus de 5 ans. Il y eut 24 papes entre 900 et 1000. Un historien de la chrétienté, car je m'appuie toujours sur l'histoire universelle de la NRF, je répète cela pour qu'on ne m'accuse pas de plagiat, a écrit ceci. Avec Serge II, 904-911, commence la plus triste période de l'histoire de la papauté. À l'anarchie sanglante succède ce que l'on a appelé la pornocratie, le gouvernement des courtisanes et de la débauche. Il demeure certain qu'une certaine Marcosi, fille d'un sénateur romain, a pendant plusieurs années disposé de la tiare au profit de personnages peu recommandables. Serge III, le pape, était son amant, et le futur Jean XI naquit vraisemblablement de cette scandaleuse union. Jean X, 914-928, a été porté au pontificat par la femme d'un sénateur avec lequel il avait eu des rapports adultères. Il mourut étouffé sous un coussin après une émeute provoquée par Marcosi. C'est la même Marcosi qui nomma Léon VI, 928-929, Étienne VII, 929-931, et Jean XI, 931-935, trois papes en 7 ans. En 955, c'est un garçon de 15 ans qui ceignit la tiare sous le nom de Jean XII. Les évêques disaient de lui qu'il était plongé dans le bourbier de ses débauches. De fait, l'empereur d'Allemagne avait pris la haute main sur les états du pape, mais l'empire était souvent fragilisé par des guerres menées aux frontières et par des rivalités entre les diverses provinces, Bavière, Saxe, Thuringe. C'est alors la noblesse romaine locale qui prenait le dessus et la tiare était la proie de la rivalité de leur clan. Que déduire de cela ? Avant tout que l'Église est vraiment fondée par le Christ et confiée par lui à Saint-Pierre. Nulle institution humaine n'aurait pu résister à de pareils scandales. Et l'Église renaît sans cesse de ses turpitudes. Il y en aura d'autres à la Renaissance. Actuellement, elle est toujours un phare, une lumière d'intelligence et de sainteté. Notons aussi qu'aucun de ces papes guignolesques n'a proclamé d'hérésie, n'a émis de préceptes contraires aux lois immuables énoncées, en particulier dans les écrits de saint Paul et de saint Jean. Le terme de miracle semble bien faible pour désigner cette résistance de la barque de Pierre à de telles tempêtes. Il faut méditer là-dessus. Même si le pape est ignoble, l'Église, elle, reste intacte. Juste après le schisme de 1054, le pape Nicolas II fixa les règles de l'élection des souverains pontifes. Ce n'était plus un mouvement populaire ou la décision d'un puissant de ce monde, mais l'élection d'une assemblée de cardinaux comprenant au plus 70 membres. Les états du pape étaient suffisamment à l'abri des Arabes, des Normands et des Byzantins, et une telle élection était possible. Dans son ensemble, c'est toujours ainsi que le pape est élu depuis presque 1000 ans. On distingue les cardinaux d'évêques, les cardinaux prêtres chargés de la ville de Rome, et les cardinaux diacres qui ont la direction des affaires extérieures. On pouvait donc, et on peut toujours, être cardinal sans être prêtre. Je crois que ça a changé dernièrement, mais peu importe. Le cardinal Mazarin en est un des plus illustres exemples. Le pape était élu en toute indépendance, sauf le respect dû à l'empereur. L'empereur ne proposait pas de candidat, mais devait approuver la nomination du pape. Une seule fois, il a émis quelques réticences. Un jeune homme qui demandait comment avoir le plus chance d'être un saint, Quelqu'un répondit en souriant que vraisemblablement c'était d'être pape et de s'appeler Grégoire, car sur les 16 papes qui ont porté ce nom, 4 ont été canonisés. Hildebrand était un moine allemand de Cluny. Il fut élu en 1073 par le collège organisé par Nicolas II dont nous venons de parler. Le peuple le réclamait déjà et l'accord était complet. Pendant longtemps, il a vécu à la cour pontificale, avait une profonde connaissance des affaires romaines. Il était formé à l'école de Cluny. Quand vint son tour de servir à la cause publique, il prit le nom de Grégoire par dévotion envers Grégoire Ier, ce grand pape qui évangélisa l'Angleterre et auquel nous devons le chant grégorien. Un des premiers soucis de Grégoire VII, qui devait régner 12 ans jusqu'en 1085, fut celui des prêtres mariés, qui se réclamaient d'une lointaine hérésie du 1er siècle, les Nicolaïtes, pour lesquels la chasteté n'avait rien d'obligatoire. Au nom de l'Antiquité, ils faisaient l'apologie d'une vie relâchée. C'étaient des laxistes. Nous avons déjà parlé de cette question, violemment débattue aux dépens du schisme. Grégoire VII tint bon et demanda aux prêtres de remplir leurs devoirs avant d'user de leurs droits. C'est une phrase que l'on devrait bien répéter de nos jours. Remplir ses devoirs avant de faire valoir ses droits. Le second objectif fut celui de ce qu'on appelait la simonie, c'est-à-dire une dépendance excessive des prêtres et des évêques vis-à-vis des autorités civiles. Initialement, on appelait simonie le trafic des grâces du ciel, par exemple demander un pourboire pour une absolution. De ce péché s'était rendu coupable Simon le magicien, comme il est relaté dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Au temps de Grégoire VII, on pensait aux clercs et prélats qui devaient trop de reconnaissance aux autorités impériales dont ils dépendaient. Les premières mesures provoquèrent contre le pape un véritable soulèvement. Grégoire VII fut accablé d'injures. Des évêques réunis en conciliabule déclarèrent que le pape demandait des choses au-dessus de la faiblesse humaine, en particulier au sujet du mariage. Mais Grégoire tint bon. Le troisième domaine dans lequel Grégoire a légiféré est celui des investitures, un problème très délicat. À la suite des convulsions politiques consécutives à la disparition de l'Empire romain d'Occident et de la montée en puissance de l'Empire germanique, les prélats se trouvèrent souvent propriétaires de terres. L'Allemagne appartenait au clergé pour un quart, voire pour un tiers de son territoire. La tentation était grande pour l'empereur de confier ses biens à des prélats par trop complaisant envers sa cour. Le favoritisme est de toutes les époques et serait bien malvenu de notre part de le regarder de haut. Grégoire VII peut résoudre la question en défendant au clerc de recevoir l'investiture d'un laïc. Mais c'était aller trop loin, puisque les évêques se trouvaient être en même temps des seigneurs terrestres. Disons pour simplifier que, en tant qu'évêque, ils dépendaient du pape, mais en tant que préfet ou marquis, il dépendait de l'empereur. La question est extrêmement délicate. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu est à la limite de l'insoluble lorsque le doux représentant du Christ sur la terre, l'expression je crois de Sainte Catherine, c'est-à-dire le pape, est aussi un prince levant ses impôts, ayant sa diplomatie et ne craignant pas de faire la guerre. C'est ainsi que le pape Jules II a fait la guerre contre François Ier et que pour cette raison Rabelais, qui aimait beaucoup François Ier, envoya le pape dans son enfer comique en faisant un simple savetier. Boniface VII fut arrêté par Philippe Auguste et puis VII par Napoléon pour des raisons qui étaient surtout politiques. Les divorces sont inévitables entre le profane qui touche au sacré et le sacré qui veut se servir du profane. Lorsque le chef de l'Église se voit tenu d'entrer dans des coalitions guerrières, on ne peut qu'avoir des difficultés. Un concile tenu à Worms en 1222 termina le débat pour un temps en déclarant que le pape donnerait l'investiture pour la crosse et l'anneau et l'empereur pour le sceptre et l'épée. Mais il ne s'agit toujours que d'une seule personne. L'histoire universelle que je consulte souvent ne consacre pas moins de 10 pages à résumer ce que l'on appelle la querelle des investitures. Essayons de résumer cela en une seule page. Au début du XIe siècle, les empereurs avaient laissé à un lignage romain le soin de pourvoir le siège pontifical. En 1045, la rivalité entre deux candidats au demeurant respectable, donna à l'empereur Henri III l'occasion d'intervenir directement dans les affaires romaines. Il nomma comme pape successivement trois évêques allemands, bien supérieurs à leurs prédécesseurs d'ailleurs. Ils agirent tous en poussant l'Église sur la voie de la réforme, en particulier Léon IX, ce qui a fait une réforme qui prenait le principal de son inspiration dans l'idéal monastique. Il y a un monde temporel qui appartient au prince et un monde divin dont les prêtres ont la clé. Pour être dignes de leur ministère, les prêtres doivent mener une vie ascétique semblable à celle des moines. Les premières mesures de Grégoire VII concernant la nomination des prélats provoquèrent une révolte. L'empereur Henri IV, soutenu par 24 évêques, somma Grégoire VII de descendre du siège qu'il avait usurpé. Grégoire VII riposta en excommuniant l'empereur et en déliant ses sujets de leur serment de fidélité. Henri réussit à se faire absoudre lors de la célèbre entrevue de Canossa en janvier 1078. Du coup, la haute aristocratie lui opposa un roi qui en appela à l'arbitrage de Grégoire VII. Pendant les atermoiements qui suivirent, Henri IV remporta plusieurs succès sur ses adversaires. Il s'en prit à nouveau à Grégoire VII, perdant toute retenue, ce qui provoqua une nouvelle excommunication en 1080. En réponse, Henri IV installa un antipape qui le couronna. Grégoire VII mourut en exil en 1087. Après un compromis négocié par le pape Pascal II, le concordat de Worms en 1122 entre le pape Calixte II et l'empereur Henri IV mit fin pour quelque temps à la dispute. L'empereur reconnaissait à l'Église l'investiture canonique, renonçant au côté spirituel de l'investiture des évêques. En échange, le pape laissait à l'empereur l'investiture sur le plan temporel, le sceptre et non plus la crosse. Cela n'empêcha pas l'apparition d'empereurs très pieux. Ils accordaient beaucoup d'attention à la spiritualité de saint Bernard. Tel fut l'essentiel de cette crise, selon l'exposé de mon livre d'histoire, en trois volumes de chacun 2000 pages. Ce n'est pas évident de résumer. Qu'il me soit permis de répéter ce que je vois dans tout cela, une preuve éclatante de la sainteté de l'Église. Nulle construction romaine n'aurait pu résulter à de telles convulsions. Nous attendons qu'en carême. Je vous souhaite à tout le monde un bon carême lorsqu'on dit, et puis vivement la résurrection, non seulement celle du Christ, mais aussi celle de notre bienheureuse patrie qui traverse une période bien noire. Je vous remercie de votre attention.